Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 27 juin, deuxième journée du repêchage Ligue nationale de hockey. Donc, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui à l'émission? On va bien évidemment parler du repêchage, mais on va parler de cette semaine complètement folle qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, une semaine pré-repêchage aussi excitante, avec autant de rebondissements que ça, c'est une des meilleures de l'histoire. Il y a une certaine... Il n'y a pas si longtemps que ça, là, une transaction Max Domi contre Josh Anderson. On était tous excités. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont changé d'adresse. Brady Tkachuk, entre autres, Mason McTavish. Des transactions comme Pavel Dorofiev qui s'en vont chez les Rangers, qui sont presque passées inaperçues. JJ Peterka chez les Bruins. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission avec mes collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui sont en direct de Buffalo. Ils sont en train de couvrir le repêchage en ce moment. Prenez une petite pause de tout ça pour venir vous jaser pour le balado de LNH.com. Donc, ils vont être avec nous dans quelques instants. Avant de se lancer, bien justement, justement, je vous invite, si vous voulez lire les textes de Guillaume, de GF là-bas qui sont à Buffalo, de tous nos correspondants, tout ça, allez sur le site de LNH.com. On a beaucoup, beaucoup d'histoires présentement. Entre autres, on va la sélection de Gavin McKenna au premier rang, Ivar Stenberg au deuxième, Caleb Malhotra, je pense que c'est Guillaume ou c'est GF, peu importe, l'un des deux qui a parlé entre autres à Malhotra. Donc vraiment, si vous voulez apprendre qui sont ces espoirs-là qui viennent d'être sélectionnés, ceux des Canadiens, entre autres, aussi, là, il y a beaucoup d'attention. Les Sénateurs aussi, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine, l'ajout de William Eklund, le départ de Brady Tkachuk. Tout ça est disponible au LNH.com. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, sur notre compte X, Blue Sky et Threads LNH, barre de soulignement FR, sur tous ceux-là, sur Facebook LNH, pour être certain de ne rien manquer de l'action, parce que de l'action, il va en avoir encore beaucoup dans la prochaine semaine avec le marché des joueurs autonomes qui va s'ouvrir le 1er juillet. Alors, on y va, on les rejoint en direct de Buffalo où ils viennent de couvrir le repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut Jeff.
Salut Nick, ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Ça va comme on vient de passer 3 jours à Buffalo, mais oui, c'est...
Ça va, ça semble quand même mieux aller que toi, Nick, de notre côté. Ouais.
on parle
Nick,
un mot-là.
Nick, les fins de semaine de repêchage ne devraient pas marcher, devraient rester sagement chez lui, ne rien faire, ne toucher à rien. Donc, on a un Nick un peu robotique aujourd'hui pour le balado. Tu peux présenter ton bras.
L'été va être plate, puis pas à peu près, parce que un petit accident de vélo, et ça a coûté l'os métacarpien, en tout cas, quelque chose comme fracture métacarpienne, appelez ça comme tu veux, mais semble-t-il que je ne ferai pas de thumbs up à personne pour les 6 à 8 prochaines semaines. Donc,
mais as-tu gardé toutes tes dents?
J'ai mes dents, ça c'est là. Au moins, j'ai une bonne trace dans le... Hey, honnêtement, là, écoutez, j'ai une fracture du pouce, mais c'est le casque qui a pété. Le casque est fendu. Donc, le choc
au
a été quand même...
Là,
vois-tu,
j'ai
des traces dans... Pour ceux qui nous écoutent, c'est sûr que si vous nous écoutez juste en audio, c'est un peu plate, là, mais j'ai des traces dans le visage. J'ai une fracture de l'os, mais j'ai survécu. Donc, puis visiblement, je suis capable de parler au hockey, donc le cerveau a tenu le coup. Mais c'est ça. Donc, portez un casque si vous faites du vélo. On n'est jamais à l'abri d'une petite mésaventure qui a été causée, dois-je dire, par moi-même, là, par une mauvaise négociation. D'une courbe, ce sont des choses. Parlant de négociations, les gars, il y en a eu pas mal dans les dernières heures, dans les dernières semaines. C'était, comme je disais en intro, c'était une semaine complètement folle. On va parler aujourd'hui, on va parler des transactions, ce qui s'est passé. On va parler du repêchage. On va se lancer sur le repêchage parce que vous êtes à Buffalo puis tout ça. Gavin McKenna a été le premier choix. Justin Bieber qui l'a présenté. Je ne sais pas si vous connaissiez le répertoire à Bieber, mais on va espérer.
Moi, plus que
GF, McKenna... Ouais, toi plus que GF, ouais. Bon, OK, parfait. Parle-nous pas de Bieber, parlez-moi de McKenna un peu. Cet ajout-là, c'est le joueur qu'on... À quel point ce joueur-là peut transformer cette concession? Parce qu'il arrive à Toronto dans une situation qui est où il y a énormément de pression, mais c'est pas la situation typique d'une équipe qui est en reconstruction habituellement puis qui gagne la loterie, qui mérite, si je peux dire, d'être là dans la loterie. On le sait, l'année passée, les Maple Leafs, c'était une catastrophe. Mais il arrive dans cette équipe-là. À quel point vous attendez voir Gavin McKenna changer le portrait de cette équipe-là?
Ben, je pense qu'il faudrait lui laisser un peu de temps quand même. Là. Je pense pas que c'est qu'il faut prendre Gavin McKenna pour le sauveur dès sa première saison. Là. J'ai de la misère à voir les Maple Leafs complètement renverser la tendance avec l'arrivée de McKenna parce que, selon moi, selon ce qu'on observe de loin, je pense que le problème est un petit peu plus profond que le simple fait d'ajouter un jeune, aussi talentueux soit-il. Je pense que, tu sais, on l'a vu du côté de Chicago. Bon, Connor Bedard était moins entouré que Gavin McKenna va l'être à sa première saison, mais quand même, ça prend du temps pour un jeune à s'adapter à la nouvelle réalité de la Ligue nationale, à s'adapter à. Tu sais, c'est une saison complètement folle de changements à tous les niveaux. On peut pas s'attendre à ce que Gavin McKenna fasse toute la différence du côté de Toronto, mais il va être quand même bien entouré. Donc, c'est certain que ce sera pas négatif pour les Maple Leafs. Mais d'un autre point de vue, je trouve que il est mis dans un contexte assez difficile compte tenu de la dernière saison de l'équipe, compte tenu du marché, compte tenu de la pression, des médias et tout ça. Là, hier, la première journée du repêchage, il n'y avait pas tant de journalistes de Toronto parce qu'on avait décidé de présenter l'entraîneur-chef Jim Miller du côté de Toronto alors que les espoirs s'adressaient aux médias ici à Buffalo. Mais hier, on a vu quand même toute la délégation des collègues torontois qui étaient là pour Gavin McKenna. Donc, ça lance le bal. Puis, tu sais, McKenna est habitué à ça aussi. Depuis qu'il a 14-15 ouais. ans, c'est un jeune qui est sous la loupe, qui se fait interviewer à gauche, à droite. Donc, tu sais, je le trouve confortable là-dedans. Est-ce que ça va se transposer sur la glace? Peut-être. Est-ce que ça va faire une grande différence? Je pense que d'ici 2-3 ans, peut-être plus que l'an prochain. Là, va falloir prendre notre mal en patience du côté de Toronto.
Mais ça reste quand même un beau cadeau pour les Maple Leafs. Là. Comme ouais. Guillaume le disait, c'est une équipe qui techniquement ne devait pas gagner la loterie. Là, tu as Gavin McKenna qui débarque à Toronto exactement 10 ans après Austin Matthews, qui avait également été un tout premier choix au total à Buffalo, dans la même ville. T'ajoutes un attaquant de premier plan à une équipe qui a quand même un noyau intéressant. C'est un beau cadeau. Mais moi, j'ai hâte de voir aussi celui qui a suivi, Ivar Stenberg, qui s'en va avec les Sharks de San Jose. Quand tu parles d'une équipe qui travaille, qui souhaite construire pour le futur, les Sharks, dans quelques années, risquent de faire peur. Avec Macklin Celebrini comme phénomène, Will Smith, là, t'ajoutes Ivar Stenberg, que selon certains recruteurs, n'a probablement rien à envier à Gavin McKenna. Puis au 9e choix, au total, tu réussis à repêcher Keaton Veroff. Je trouve que Mike Greer a très bien manœuvré. C'est un DG qui avait besoin d'un défenseur. Mais le meilleur joueur disponible au deuxième rang restait le Suédois, restait Stenberg. Donc, tu repêches Stenberg. Ils ont échangé William Eklund, un ailier qui a eu une cinquantaine de points au Sénateur d'Ottawa. Ils ont réussi à mettre la main sur le 9e choix. Puis avec ce choix, ils vont chercher un des meilleurs défenseurs disponibles de cette QV 2026 en Veroff, un grand défenseur gaucher qui va s'ajouter à Sam Dickinson éventuellement dans le futur. Donc, c'était une très, très belle journée pour les Sharks de San Jose, disons, dans le top 10.
Puis on a aussi été chercher Ryan Lynn, troisième choix,
ouais, un autre défenseur
au premier
doué.
Tour. Mais c'est ça, j'aime bien ce qu'on est allé chercher comme mélange de Veroff, qui est un peu plus robuste, un peu plus gros. Ryan Lynn, petit format, mais quand même très offensif. Tu sais, c'est pas une garantie, on le sait, les défenseurs de plus petit gabarit, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais étant donné que tu avais Veroff et Stenberg, ben c'est un beau projet là, d'aller chercher Ryan Lynn puis d'essayer de le développer en défenseur offensif. Là. J'ai bien aimé le premier tour des Sharks de San Jose. Puis on disait hier, on niaisait avec des collègues qui ont le Canadien en haute estime. Puis on se disait probablement qu'on va avoir une confrontation entre les deux équipes peut-être dans les 5 prochaines années là, sur la plus grande scène du hockey parce que les deux équipes s'en vont dans la même même direction. Les deux équipes ont beaucoup, beaucoup de bons espoirs. Grosse soirée pour les Sharks de San Jose hier.
Oui, vraiment, Mike Greer a navigué à travers ça, parce que vous l'avez dit, on se demandait, va-t-il vraiment, il va peut-être prendre Chase Reed deuxième, puis non, il a géré ça. Et je vais ajouter à la liste d'espoir que vous avez nommée, en quatrième ronde, on a pris Brady Nolan, qui est un gardien que certains voyaient comme le meilleur gardien disponible pour ce repêchage-là. C'était entre autres la centrale de dépistage qui voyait ça comme ça. Donc, tu te retrouves... T'sais, là, il y en a des espoirs. Là, les Sharks, on peut parler de Michael Misa, on peut parler de Will Smith, on peut parler, oui, Eklund, on l'a échangé, mais tu remplaces Eklund par Stenberg qui ressemble à Alexander Barkov. Quand tu veux bâtir une équipe, là, il y a des éléments de tout genre. Puis Stenberg m'a tellement impressionné au championnat du monde. Ça va être intéressant. Oui, les Sharks, attention, là, les Sharks. Tu sais, Toronto, on a repêché premier. Mais on est peut-être encore comme équipe sur la pente descendante. Tandis que les Sharks, là, c'est juste une catapulte là, qui attend d'exploser. Mm-hmm. L'an passé, c'est passé près, puis ça pourrait se poursuivre. Et troisième rang, il y avait encore un mystère. C'est-à-dire, est-ce que les Canucks allaient oser repêcher le fils du coach? On l'a fait, on a pris Caleb Malhotra. Vous pensez quoi de cette décision-là? Est-ce que c'est osé? Ça représente quoi comme pression pour un jeune Malhotra qui... Écoute, moi, quand j'y ai parlé là, à Science d'évaluation des espoirs, j'ai trouvé que c'était un jeune... qui avait l'air tellement intelligent, posé, mature. À l'époque, est-ce que vous voyez ça? Guillaume, tu n'étais peut-être pas là encore. Jeff, je ne me souviens plus, mais Manny Malhotra, quand il a joué brièvement avec les Canadiens, c'était un peu le même genre. C'est un coach, d'ailleurs. Souvent, c'est le profil typique. Vous avez pensé quoi de cette décision-là des Canucks?
Ben, j'aime bien la décision. C'est certain que ça place le jeune dans une drôle de position. Là, d'ici quelques années, quand il va s'aligner avec les Canucks, ben... t'as des coéquipiers qui peut-être seront pas en accord avec les décisions de l'entraîneur, qui en parlent entre eux, puis là, t'as le fils de l'entraîneur qui en avait ça. C'est un peu étrange, mais
c'est
en même temps...
C'est comme quand un de tes amis dans la classe, sa mère était la prof. Tu comprends?
Ben,
ceux qui veulent un peu voir là, le
un
type
peu dynamique,
d'effet que ça fait.
Une dynamique un peu étrange, mais ouais. D'un autre côté, c'est une tête de hockey, tu sais, Caleb Malhotra, c'est un jeune homme, tu le disais, qui est posé, qui est très, très intelligent. Je pense qu'il va être capable de gérer ça avec beaucoup de professionnalisme. Et ce qui m'a marqué hier, quand il s'adressait aux médias, c'est, tu sais, il y a un attachement aux Canucks. Puis il a grandi mm-hmm. avec le gilet de cette équipe-là sur le dos. Il racontait d'ailleurs une anecdote. Il disait, quand j'avais 6 ans, je regardais mon père jouer pour les Canucks. Puis j'ai juste demandé à ma mère, là, c'est le temps que tu m'inscrives avec les Canucks. Là. Je veux jouer avec cette équipe-là. Dans sa tête, c'était comme une équipe de hockey mineur, comme toutes les autres. Il dit, tu sais, maintenant, c'est le rêve est devenu réalité. Mais il y a un attachement à cette ville-là. À cette équipe-là, il connaît le marché, il sait à quel point les gens là-bas veulent une première conquête de la Coupe Stanley. On est passé près en 2011 alors que Manny jouait pour les Canucks. Donc, il dit, au niveau de la culture, mon père m'a tellement enseigné comment c'était avec les frères Sedin, avec Alex Burrows qui était là à l'époque et tout ça. Il dit, je veux ramener cette culture-là, puis je veux ramener cette excitation-là dans la ville. Je veux gagner avec les Canucks. Fait que je pense que dans la position dans laquelle les Canucks sont, ou d'un point de vue extérieur, niveau culture, tu sais, on perd des morceaux année après année. Cette année, Quinn Hughes est échangé. Je pense que c'est une bonne décision d'y aller avec un choix qui est un peu plus local, qui a un attachement à l'équipe, puis qui veut faire la différence. Ça peut être la première pierre d'une reconstruction, puis y aller avec ça, aller avec un gars qui va montrer l'exemple. C'est le fils de l'entraîneur, c'est un peu étrange, mais je pense qu'une fois que tu passes par-dessus ça, tu vois que autant niveau talent, autant sur la glace que hors de la patinoire, je pense que c'est une très, très bonne décision des Canucks de Vancouver.
C'est le fils de l'entraîneur, mais je veux pas être prophète de malheur, mais quelle est la durée de vie en ce moment d'un entraîneur au sein d'une équipe de la Ligue nationale? Peut-être que dans 5 ans, Caleb Malhotra va être un des meneurs des Canucks et c'est possible que Manny, le père, ne soit plus derrière le banc. Puis je souhaite, tu sais, Manny, c'est une très bonne tête d'hockey. Je me souviens de lui à son année avec les Canadiens. Il avait été ralenti par une blessure à l'œil. Il était en fin de carrière. Il était plus là pour gagner des mises en jeu. Mais c'était toujours agréable de parler avec lui. Il parle français aussi, Manny Malhotra, ouais. Là, est capable de très, très bien se débrouiller en français. C'est une bonne tête d'hockey. Il a gagné dans la Ligue américaine. Il est rendu à cette étape-là de maintenant obtenir sa chance avec les Canucks. Puis tu sais, Caleb Malhotra, c'était le meilleur joueur de centre disponible à l'encan 2026. Donc, les Canucks, avec le troisième rang, oui, ils repêchent le fils de leur coach, mais ils repêchent surtout le meilleur centre disponible avec une très bonne tête d'hockey. Si tu as besoin d'établir une culture, tu veux miser sur un joueur intelligent, solide, je pense que Caleb Malhotra répond à ces catégories-là.
Ouais. Derrière, il y avait un paquet de défenseurs qui pouvaient être repêchés. Puis certains voyaient Chase Reed peut-être deuxième. Finalement, ça n'a pas du tout été ça. C'est Daxon Rudolph qui a été repêché en premier par les Sabres de Buffalo. D'ailleurs, on va reparler des Sabres parce qu'eux aussi, si tu voulais donner le show à la maison, tu l'as donné, puis pas à peu près dans les derniers jours. Parlez-moi un peu de cette sélection-là, parce qu'on a eu un après l'autre. Là. On a eu Daxon Rudolph. Après ça, chez les Rangers, Albert Smith, Carson Carroll, qui a été repêché par les Flames. D'ailleurs, lui, un cowboy à Calgary, c'est assez approprié, merci. Puis Chase Reed, finalement, a suivi au septième rang. Et Keaton Verhoeff au 9e, là, il y a seulement Viggo Bjork qui s'est introduit à travers tous ces défenseurs-là. Quand vous avez parlé aux gens là-bas, puis tout ça à Buffalo, est-ce que c'était une question de talent, une question de tout simplement quelle équipe préférait quel défenseur, plus que ça aurait pu quand même, on aurait pu brasser ça comme un jeu de boggle puis avoir un mot différent? Là.
Bien, ça se peut que le Kraken de Seattle avait Chase Reed avant tous les autres défenseurs, qui, que ce soit Rudolph, que ce soit Carson Carroll. Écoute, les Sabres voulaient Daxon Rudolph. C'est un défenseur droitier. Si tu regardes la brigade défensive du côté des Sabres, Dalin est un gaucher, Samuelson est un gaucher, Owen Power est également gaucher. Chase Reed, vous allez me dire, est aussi droitier, mais Rudolph est plus grand, plus gros. Ça tombe dans les cordes des Sabres de Buffalo. Moi, tu sais, on a parlé de Mike Greer qui a bien travaillé les derniers jours. Jarmo Kekäläinen,
he's cooking.
Lui, il se retrouvait avec une patate chaude, là, Bowen Byram, qui disait clairement, moi, mon futur, je ne le vois pas avec les Sabres de Buffalo. Mais si je le vois à Buffalo, sortez le chéquier avec un immense montant. Il échange Bowen Byram aux Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks ont besoin de renforcer la ligne bleue. Ils veulent un corps arrière pour Connor Bedard. Mais ils devront payer Byram un montant astronomique. C'est pas encore fait, la prolongation de contrat avec les Blackhawks de Chicago. Donc, a réussi à échanger Bowen Byram contre un quatrième choix au total. Puis une transaction qui a passé un petit peu inaperçue va chercher Olen Zellweger, qui est quand même un bel espoir, un défenseur gaucher. Zellweger va peut-être prendre la place qu'occupait Bowen Byram à un beaucoup plus petit salaire dans le futur. Donc, Kekäläinen a réussi quand même à transformer un problème en une solution heureuse.
Écoute,
il a dit au revoir aussi à Alex Tuch, mais honnêtement, là, Alex Tuch, c'est combien? C'est 10,5 millions, si ma mémoire est bonne, pour 8 saisons avec les Capitals de Washington. À 30 ans, je peux comprendre, Jarmo Kekäläinen, d'avoir appuyé sur le frein, puis tu pèses fort sur le frein. Ça, j'ai pas de trouble avec sa décision.
Faut pas oublier aussi, dans la transaction de Bowen Byram, il y a aussi Louis Crevier, défenseur des Québécois, qui est un droitier, 6 pieds 8, 228 livres, qui s'amène à Buffalo.
Il y a pas de deuxième ronde aussi, là.
Ils ont payé la totale, les Blackhawks.
Il y a un choix de deuxième ronde et tu sors Jordan Greenway qui
est un contrat assez pesant.
Plus très utile avec un gros contrat. Écoute, Jarmo Kekäläinen est arrivé dans cette période-ci d'année en sachant qu'il allait probablement perdre Tuch, en sachant que Bowen Byram voulait s'en aller aussi. Tu transformes ça en ce que tu as fait. Je veux dire, Jarmo Kekäläinen a vraiment, vraiment fait du bon travail pour éviter une régression, parce que là, les Sabres viennent de faire les séries pour la première fois depuis, depuis l'invention du téléphone, c'était en 1900. Plus sérieusement, ça faisait très longtemps, puis tu veux pas perdre ce momentum-là. Mais de perdre deux joueurs comme ça, ça aurait pu créer juste de la bisbille, des problématiques dans le vestiaire, puis tu vois un directeur général qui est actif comme ça, super bon. D'ailleurs, il y a eu d'autres rumeurs aussi, là. C'est peut-être pas fini le travail de Kekäläinen. Certains ont parlé de Connor Hellebuyck du côté des Sabres. Donc, non, c'est vraiment, vraiment pas terminé. On a parlé de tout ça. Écoute, on passera pas à travers tous les choix parce que ça serait un peu long à travers tout ça. Puis vous devez quand même aller prendre votre avion pour vous en revenir à Montréal. On va parler de ce que les Canadiens ont fait. Gleb Pougachiov en première ronde, l'aviez-vous sur votre liste ou le voyez-vous ou comme nous qui étions au bureau vendredi soir, vous avez fait oh, on n'a pas de photo du bon Gleb. Où on peut trouver ça?
Non, mais le bon, c'est toujours difficile de prédire quand une équipe. Techniquement, là, le CH avait le 28e rang au premier tour. T'sais, qui peut être disponible rendu au 28e rang? Là, tu tombes dans un bassin de joueurs où il y a peut-être une trentaine de noms facilement qui pourraient circuler. Montréal a finalement choisi de s'avancer de deux rangs. Petite transaction avec les Golden Knights de Vegas. On le sait, les Golden Knights n'ont jamais beaucoup de choix au repêchage. Donc, ils ont cédé quoi? Un choix de... Ils ont cédé le 28e choix et un choix de troisième tour en 2027. Pour grimper de deux rangs, repêche un ailier qu'on décrit comme un ailier de puissance, 6 pieds 3, plus de 220 livres, frappe apparemment comme un train. C'est un joueur qui ne joue pas dans la dentelle, là, une espèce de Tom Wilson ou de Josh Anderson, un gros ailier. Ça correspond à un besoin immédiat. Mais c'est pas demain matin là, qu'il va porter l'uniforme bleu-blanc-rouge. Il lui reste deux autres saisons du côté de la KHL. Donc, c'est un projet à long terme, mais avec un 26e choix au total, c'est rare que c'est un projet qui devient à très court terme. Donc, on peut un peu comprendre la philosophie.
J'ai vu un commentaire qui m'a tellement fait rire. Michael Mekarius.
Ouais.
Qu'on a écrit. C'est un peu le même type de projet, j'ai l'impression. Je sais pas. Est-ce que
ouais, c'est mais, son coup de patin est meilleur que Mekarius à 18
coup de patin,
ans.
Le coup de patin, je pense que c'est une de ses forces. Là. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Tu sais, quand le Canadien a repêché Michael Mekarius, on disait déjà qu'il fallait qu'il travaille sur son coup de patin. On parlait de l'identité du Canadien puis qui est en train de presque mettre le doigt dessus. Je pense pas que l'état-major aurait misé sur un joueur qui n'a pas un bon coup de patin parce que c'est une équipe qui joue rapidement et tout ça. Mm-hmm. On ajoute simplement du poids, de la robustesse. On parlait même de violence dans son cas, là, le joueur le plus violent du repêchage. J'aime quand même la décision, mais mon premier réflexe, ça a été de penser aussi au repêchage de Michael Mekarin. Le Canadien venait de se faire malmener un peu en série, puis on avait décidé d'y aller pour le gros bonhomme pour essayer de combler ce besoin-là. Mais dans deux ans, est-ce que ça va toujours être un besoin? Quand il va arriver à Montréal, est-ce qu'on va avoir comblé ce besoin-là d'une autre façon? Mais je pense qu'il y a quand même aussi des aptitudes offensives qui sont quand même présentes, là, qui vont pouvoir être exploitées. Donc, c'est pas un choix qui est perdu. Je pense que c'est un beau projet. Puis, on agrandit un peu la connexion russe du côté de Montréal là, avec Zarovski, Demidov. Je crois que les trois se connaissent bien. Là, donc, on ajoute un joueur à ce trio-là, puis on espère que ça devienne une connexion forte dans les prochaines années.
Les trois ont le même agent. Là. C'est la filière de Dan Milstein. Faut quand même, tu sais, le CH a de bonnes antennes en Russie. Ça part avec Nick Bobrov, qui connaît très bien le territoire. Joue à Torpedo, là, si je me trompe pas, oui. Gleb. Donc, c'est un choix qui avait besoin de muscles, il avait besoin de poids, il avait besoin d'un peu de papier sablé à l'attaque. Ça rentre dans cette catégorie-là.
Quand tu as fait le plein d'espoir, comme on a fait dans les dernières années, tu peux te permettre de repêcher ou
d'avoir une carte différente
selon tes besoins et non pas nécessairement selon le meilleur. Puis de toute façon, je veux dire, c'était pas un petit besoin. Là. C'est un gros besoin parmi la...
Il n'y avait aucun nom encore au tableau que tout le monde disait « Ah, ben là, c'est incroyable que ce joueur-là soit encore là, puis il faut le repêcher. » Tu sais, je pense que un ou l'autre, ça se vaut. Là. C'est une décision qui est parfaitement compréhensible.
Plein de défenseurs aussi. Là. J'ai vu là, au moment où on se parle, là, c'est encore c'est pas encore terminé là, au moment où on se parle. On est vraiment live. Mais oui, plein de défenseurs... est-ce qu'il y a un nom qui sonne une cloche parmi ceux-là qui vous allez pouvoir voir quelque chose?
Il faut être très franc, là, ça reste des noms qu'on voit apparaître sur un tableau. Puis ensuite, on fait une recherche, HockeyDB, Willett Prospect, on va lire à gauche, à droite. Le choix de deuxième tour du CH, là, Timofey, n'était pas présent du côté de Buffalo. C'est un jeune homme qui a grandi.
Timofey Runsto, oui.
Exact, c'est un jeune homme qui a grandi en Californie. Son père... Et il faisait des doublures pour certains films, certaines séries à Hollywood. Donc,
c'est le détail qu'on a retenu.
C'est le détail qu'on a retenu. C'est un jeune homme aussi de 19 ans. Donc, c'était sa deuxième année d'admissibilité au repêchage. Il a joué dans la Ligue junior de l'Ouest. Il a eu quand même de bonnes statistiques. Mais regarde, on ne passera pas 25 minutes sur lui. Là,
on peut parler du seul joueur, en tout cas jusqu'à temps qu'on quitte l'aréna pour venir enregistrer le balado, le seul joueur qui était repêché par les Canadiens qui était présent, un dénommé Cooper Cleaves, qui était au camp de développement de l'équipe l'an dernier et qui a joué à Dartmouth College dans la NCAA, avec comme coéquipier quand même Emmett Croteau, qui est un espoir du Canadien devant le filet. Puis, tu sais, on a l'impression que la relation entre le Canadien et Cooper Cleaves s'est développée là, au fil des années. Après le camp de développement, ben on y avait dit, écoute, si tu joues de la même façon l'an prochain, ben, tu te donnes une chance, puis nous, on t'a à l'œil.
C'est un joueur qui avait reçu une invitation pour le camp de développement l'an dernier, sans être repêché.
Ouais, c'est ça. Puis il y a une connexion aussi avec... Il a joué avec les fils de Martin Saint-Louis, donc on le connaît quand même assez bien du côté du Canadien. Puis c'est quand même un grand bonhomme, 6 pieds 3 pouces, 203 livres à 20 ans. Il dit que ça lui a pris du temps à trouver son identité, mais dans les dernières années, il a vraiment pu mettre le doigt dessus et ça l'a aidé un peu à se développer. Il dit que c'est un joueur à développement tardif et qui arrive dans les meilleures années là, de sa carrière. Donc, on verra bien. Ça aussi, c'est un projet. Tu as quand même un choix de troisième tour. C'est quand même une belle histoire qui avait décidé de faire le voyage à Buffalo, même si à 20 ans, tes chances sont un petit peu moindres d'être repêché, mais il y avait une belle relation de confiance avec les Canadiens, puis il y avait l'impression que ça pourrait se produire cette fin de semaine, et il a gagné son pari.
Puis c'est contrairement
au quatrième tour, Nick, là, un autre défenseur, Braden Klimke, plus petit, lui, 6 pieds, jouait avec les Blaze de Saskatoon, était un adjoint au capitaine, 47 points à 68 matchs, 4 buts, 43 passes. Donc, un profil quand même un petit peu offensif. Vraiment, le deuxième, troisième, quatrième tour, c'est pas compliqué. On ajoute à la brigade de défenseurs du côté du CH. Puis rapidement, là, les choix de sixième tour.
Je crois que c'est des alliés.
Parker Trottier et Wesley Royston. Donc, deux attaquants. Écoute, Parker Trottier, premier du programme de développement américain. Wesley Royston, l'attaque d'Owen Sound. Ça, c'est l'ancienne équipe de Nick Suzuki. 6 pieds 4, 190 livres pour le bon Wesley Royston.
Vous 19
points l'an dernier.
Vous allez parler sûrement à Kent Hughes tantôt, puis tout ça, donc les gens vont pouvoir en lire un peu plus sur le site de lnh.com. Je veux qu'on continue, je veux parler un peu de ce qui s'est fait au niveau des espoirs québécois qui ont été repêchés. Maddox Dagenais qui va avoir été le premier, qui devance son père, lui, qui avait dû attendre à la deuxième ronde. Donc, 16e pour Dagenais, les Blues de Saint-Louis, s'en va rejoindre Justin Carbonneau, entre autres, là-bas. Pour Dagenais, c'est une belle récompense pour l'année qu'il a connue. Après une première année junior, peut-être, où on s'est posé des questions. Hein.
Mais je pense que sa cote est à la hausse depuis le temps des fêtes. Puis Maddox Dagenais est le premier à le reconnaître, qu'il y a eu comme un changement de cap dans sa mentalité. Il entendait trop souvent qu'il devait devenir un joueur plus constant. C'est un reproche qu'on lui faisait au niveau des recruteurs. Puis à partir de Noël, il a eu une plus grande implication physique dans son jeu. C'est un ailier, un centre plutôt de 6 pieds 4 pouces, qui a un bon gabarit. Donc, il a fini par frapper plus. Ça lui a amené une plus grande constance par le fait même dans son propre jeu. C'est une belle histoire pour lui. 16e choix total par les Blues de Saint-Louis. Les Blues n'ont pas peur de piger dans la LSJMQ. L'an dernier, c'était Justin Carbonneau, 19e, si ma mémoire est bonne, dans le cas de Justin. Maddox, lui, au moins, il va espérer être repêché une seule fois, contrairement à son père, Pierre, qui a été repêché deux fois par Lou Lamoriello et les Devils du New Jersey. Au deuxième tour, en 96, 2 ans plus tard, au quatrième tour en 98. Puis il faut retenir aussi Pierre avec des paroles de sagesse qui disait que Saint-Louis est une très belle ville. Donc là-dessus, je suis 100% d'accord avec juste. Pierre. Oui, il a vu juste.
Après ça, Dagenais, ben, il y avait un débat au niveau de la GMQ. Quel défenseur a été repêché le premier entre Tommy Blyle et Xavier Villeneuve? Xavier Villeneuve qui amorçait vraiment la saison en avance sur les dans l'estime de plusieurs dépisteurs, mais Blyle a gagné des points, à un point tel qui a été le 31e choix du repêchage. Et Villeneuve, ben écoute, a dû attendre la deuxième journée, mais ça n'a pas été très, très long pour se faire pêcher. A été sélectionné par les Blackhawks de Chicago. Avec quoi? Avec le deuxième choix de la...
Troisième? 34e au total.
34e. Donc, le deuxième choix de la journée. Donc, pas une grosse différence. Dans le cas de Villeneuve, peut-être nous expliquer qu'est-ce qui a fait la différence. Pourquoi il a dû attendre un petit peu, attendre à la deuxième journée?
Ben, il n'a pas vraiment pu se faire justice cette saison. Là, mm-hmm. On s'attendait à une grosse saison de sa part parce qu'il jouait avec l'Armada, la grosse année, on visait les grands honneurs. Il a été blessé à partir du mois de janvier, a joué seulement 2 matchs en fin de saison, juste avant les séries. Et puis en série, de ce qu'on comprend, il n'était pas nécessairement à 100%. Là. Son état de santé n'était pas... il est revenu pour jouer en série parce que c'est un joueur de hockey et il voulait faire la différence. Mais je pense que c'est surtout ça. Là, en plus... t'ajoutes le fait que c'est un défenseur de plus petit gabarit. Là, passé à peu près la moitié de la saison sans jouer, c'est un petit peu difficile de peser, de mettre ton poing sur la table et de dire ben il faut repêcher ce gars-là en première ronde parce que X, Y, Z. Fait que je pense que ça a joué contre lui un peu la saison qu'il a connue. Puis ensuite de ça, ben heureusement, il n'a pas eu à attendre bien longtemps là, aujourd'hui. Hier, on avait senti, selon la réaction qu'il y a eu là, après le 32e choix, il s'attendait, tu sais, il voulait vraiment être un choix de première ronde. Il était déçu, frustré même par la tournure des événements. Là, tu sais, c'est pas facile non plus, surtout dans le contexte d'hier. On amenait tous les espoirs sur le parterre avec leur famille, sur les divans. Puis là, tu vois les joueurs à gauche, à droite se lever pour aller prendre la photo là, sur l'estrade et tout ça. Donc, pour lui, ça a été une soirée difficile, mais il dit j'avais quand même eu de bonnes conversations avec les Blackhawks. Et c'est assez facile de se consoler quand tu te dis que tu t'en vas jouer pour une équipe originale, jouer dans la ville de Chicago. Il a rapidement oublié tout ça, mais on sent que ça a allumé en lui. Il est habitué d'avoir des doutes à son sujet, de se faire remettre en question, de se faire critiquer et tout ça. C'est le cas depuis qu'il est tout jeune, parce que c'est un défenseur de plus petit gabarit. Là, il est rendu à 5 pieds 11, tout près de 6 pieds. Donc, peut-être que le message va changer par rapport à lui, mais encore une fois, on sent que les doutes, ça a allumé quelque chose en lui, puis il nous l'a dit ce matin, il dit « j'avais faim, mais là j'ai encore plus faim, puis l'adversité, je suis habitué d'en avoir. Hier, c'est une autre claque au visage, je me relève, puis je continue, puis là, l'an prochain, il s'en va à Boston University, où Lane Hudson, Cole Hudson ont fait leurs preuves dans les dernières années, donc va essayer de suivre leurs traces et de s'établir là, comme un...
Écoute, comme deux choix de deuxième ronde, les Hudson, hein? Donc...
Non, exact, il était quand même...
S'il y a de quoi, il partage de quoi de plus en commun avec avec son idole, Lane Hudson.
Il a été repêché quand même, je pense, 28 ans avant Lane Hudson, fait que c'est quand même une petite victoire pour lui. Puis c'est la suite des choses qui va déterminer là, la tournure de sa carrière, mais on l'a senti quand même assez motivé ce matin.
Les gars, on vient sur la semaine. Écoutez, on aurait pu faire un balado pré-repêchage qu'on aurait seulement parlé de transactions si j'avais pas été à l'urgence ou peu importe, là, mais en train d'attendre. Mais non, d'ailleurs, merci aux gens de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai des très bons soins, je tiens à le dire. Pour la prochaine fois, je vais y retourner en plus. La transaction Brady Tkachuk, c'était le premier domino d'une semaine complètement folle où on a vu que certaines équipes allaient être très agressives. Tkachuk, là, on pourrait en parler pendant une heure, là, mais qu'est-ce que vous pensez que les sénateurs, comment on va rebondir chez les sénateurs de cette transaction-là? Puis à l'inverse, chez les Panthers, hein, est-ce que ça pourrait être la transaction qui fait que ça tourne mal? Tu sais, le John Tavares à Toronto, là. Est-ce qu'on a pris une décision qui est peut-être trop émotive, mais qui, sur le long terme, va peut-être nous lier les mains un peu par rapport, tout dépendant quel salaire il va demander avec son prochain contrat et tout ça, là?
Bien, on attendra. C'est difficile d'évaluer, d'analyser pleinement l'impact, mais les Sénateurs se retrouvaient coincés. Brady Tkachuk ne voulait plus poursuivre sa carrière à Ottawa. Il a soumis une liste de 4 équipes, mais c'était écrit en caractère gras, les Panthers de la Floride. Donc, techniquement, il y avait une
en
seule
tout
équipe.
Petit caractère, il y avait trois autres équipes. Au bas de la page, là, comme les conditions sur un contrat. Là.
Steve Staios réussit à obtenir 3 choix de premier tour en retour de Brady Tkachuk. Il a déjà échangé le 9e choix, qui est devenu William Eklund, qui est un ailier d'une 50aine de points. Eklund est un top 10 il n'y a pas si longtemps au repêchage. N'a pas le profil d'un Brady Tkachuk. Là. C'est plus un joueur en finesse, un ailier rapide. Les Sens perdent leur capitaine, mais un capitaine qui était malheureux, qui ne voulait plus jouer dans la capitale nationale, qui voulait jouer aux États-Unis, qui voulait jouer avec son frère.
C'était devenu une distraction aussi. Là.
Oh, oui, le sujet aussi, revenait à tous les 3 mois. C'était encore le cas au retour des Jeux olympiques de Milan. L'après Brady Tkachuk, par contre, pourrait être difficile du côté d'Ottawa. Là. Tu viens de perdre une pièce quand même maîtresse de ton équipe. Est-ce qu'éventuellement, Jake Sanderson va demander la même chose à Steve Staios? On dirait que c'est un nouveau mouvement que certains joueurs américains ne veulent pas jouer au Canada. Mais est-ce que Brady est un si grand capitaine à Ottawa? J'ai hâte de voir aussi quelques réactions de coéquipiers. Il y en a peut-être qui vont se délier la langue un petit peu dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais là, les Panthers redeviennent les Panthers. C'est Alexander Barkov qui jouera cette saison. T'as maintenant les deux frères qui vont porter le même uniforme. Ça risque d'être encore une fois une puissance dans l'association de l'Est.
Oui, puis quand je regarde, là, justement, je vous nomme quelques autres noms qui ont bougé, là, quelques équipes. Là. Mason McTavish chez les Blues, J.J. Peterka chez les Bruins, Pavel Dorofiev chez les Rangers, Valeri Nichushkin chez les Blue Jackets, Jordan Kyrou chez les Capitals. Quoique je trouve que les Blues ont de loin gagné cette transaction-là parce qu'on obtient Connor McMichael, Milton Gastrin, puis justement le choix qui a servi à repêcher Maddox Dagenais. Mais devant le fait qu'il y a eu autant d'équipes agressives comme ça, est-ce que ce week-end-là, et je veux pas dire échec, là, mais pour les Canadiens, on a un petit peu manqué notre coup?
Ouais, je dirais pas échec, mais j'ai hâte de voir ce que Kent Hughes va dire au terme du repêchage. C'est pas terminé, là. On s'entend que c'est pas parce que le repêchage est fini qu'il y aura absolument rien qui va se passer du côté des Canadiens, mais quand tu regardes ce que les Sabres ont fait, quand tu regardes, tu sais, même les Sénateurs, je peux pas dire qu'on s'est amélioré, mais on a réparé les pots cassés quand même assez rapidement.
Ouais, bien dit,
avec l'acquisition d'Eklund. On dirait que les équipes dans la section atlantique
Toronto ajoute McKenna, ajoute Darren Radish, qu'on verra bien ce qu'il va être en mesure de faire, mais c'est deux ajouts.
Non, ouais, on se parlera de Darren Radish dans 3 ans ou dans 4 ans aussi.
On va en parler. Moi, je suis pas sûr qu'on va en parler avant 3 ans. Là.
Ouais, mais non, mais c'est ça. Je pense que Kent Hughes et Jeff Gorton cherchent. Je pense qu'ils seraient prêts à surpayer pour des joueurs qui cadrent parfaitement avec leur vision, c'est-à-dire des joueurs qui ont à peu près le même âge que le noyau de l'équipe, qui vont pouvoir être là pour plusieurs années. Je pense pas qu'on surpayerait pour un gars comme Vincent Trocheck, qui serait là à court terme pour boucher un trou. Mais j'ai l'impression qu'un Mason McTavish, ça aurait quand même bien cadré avec les plans des Canadiens. Mais ensuite de ça, ben, on n'est pas dans les discussions. On ne sait pas ce qu'on a tenté de faire. Il y a eu quand même du bruit par rapport à Marchenko du côté de Columbus. T'sais, c'est un joueur, justement, qui est dans le même groupe d'âge, qui viendrait combler un peu les besoins qu'on a au chapitre de la robustesse, au chapitre de la grosseur, du gabarit. Fait que tout ce qu'on a entendu, ça fait un peu de sens, mais je pense que de sortir de ce week-end-là ou de cette semaine folle-là sans avoir amélioré cette équipe-là, ça laisse quand même des points d'interrogation parce que tu te dis, si le Canadien recommence une saison avec la même formation, bon, c'est une très bonne formation qui a quand même récolté 106 points la saison dernière, mais...
Et qui devrait continuer à progresser aussi, là.
Mais il faut quelqu'un pour jouer avec Ivan Demidov. Puis ça, c'est le gros dossier de la saison morte. Puis c'est un dossier qui doit être réglé avant le début de la saison, à mon avis, parce que tu veux commencer sur des bases solides et non pas attendre en cours de saison puis commencer à ajouter des pièces en cours de route, là. Fait que c'est pas terminé. Mais je pense que pour l'instant, il y a quand même une petite déception là, du côté de Montréal.
Kent Hughes, Jeff Gorton, on a toujours dit qu'une des grandes qualités du duo d'hommes de hockey, c'est deux hommes qui ont une vision, qui respectent leur plan et qui sont patients. Là, ils l'ont été encore une fois. Ils prônent la patience. Ils n'ont pas voulu embarquer dans des surenchères où probablement qu'à leurs yeux, le prix à payer était trop élevé. C'est un marché de vendeurs. Mais la présence dans le carré d'as en finale de l'Est vient augmenter une certaine pression, surtout au niveau des partisans. Ils ont soif de victoire, ils veulent voir cette équipe atteindre l'objectif ultime encore plus rapidement. Mais le début de la saison, c'est au mois d'octobre. Il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et le mois d'octobre pour bouger. Si la question du deuxième centre, ça reste Oliver Kapanen, aucun entraînement au mois d'octobre, peut-être que là, on aura à se poser des questions. Mais tu sais, tu regardes aussi une équipe comme les Rangers de New York vont chercher Pavel Dorofeyev. C'est correct. Le prix n'était pas monstrueux. Mais moi, c'est le contrat. 11 millions pour les 7 prochaines saisons. Oui, il a marqué 2 fois 30 buts. Mais est-ce que Dorofeyev va changer complètement l'image des Rangers en un claquement de doigts? J'ai des doutes. Je trouve que c'est un bon joueur au sein d'une bonne équipe. Mais un bon joueur qui sera moins bien entouré que les Rangers, on s'en reparlera. Chris Drury a peut-être montré des signes d'impatience, chose que Jeff Gorton et Kent Hughes n'ont pas fait.
Mais j'ai tellement l'impression que l'échelle économique, salariale
a
explosé en l'espace. Ce qui, écoutez, dans pas long, c'est pas compliqué. Les Canadiens vont jouer pour gratuitement. Là. Je veux dire, il y a des contrats dans cette équipe-là qui vont être des aubaines incroyables.
Ouais, mais ça
dans
devrait,
3-4 ans, là, dans 2 ans.
Ça va représenter une grande force pour Montréal.
Ouais,
c'est justement l'équilibre salarial au sein de cette équipe-là. Ouais, ils vont pouvoir
Je garderai quand même aussi un œil ouvert sur le dossier Michael Hage. Parce que j'ai eu l'impression que Jeff Gorton, dans sa conférence de presse d'avant-repêchage, a été questionné au sujet d'Age. Puis il a dit, tu sais, l'été est long, il peut se passer des choses. Là, pour l'instant, il nous a dit qu'il retournait à Michigan, mais... Puis il a comme dit une phrase dans le sens... si on n'obtient pas d'aide au chapitre du deuxième centre, ben peut-être qu'il y a un... poste d'ouvert, là, c'est un peu ça ce que ça voulait dire. Peut-être que le Canadien va se revirer au mois de septembre. Septembre, ça risque d'être un peu trop tard, là, mais vers le mois d'août, puis dire Michael, on a un trou au centre du deuxième trio. Tu pourrais faire le saut directement puis tenter de gagner ton poste. Là, c'est peut-être des arguments que le Canadien n'avait pas juste avant les séries, quand on a eu les discussions pour signer le contrat. Peut-être que Hage voyait qu'il était bloqué au chapitre de la profondeur et tout ça, puis entre aller jouer dans la Ligue américaine puis jouer une autre saison NCAA, ben peut-être c'est plus attrayant du côté de Michigan, mais je pense que ce dossier-là n'est pas clos puis que ça pourrait être une option si jamais le dossier traîne en longueur puis on se rend compte qu'on se retrouve le bec à l'eau avant le début de la saison. Peut-être que on va essayer de convaincre Michael Hage de façon un peu plus musclé, disons. J'ai hâte de voir comment le Canadien va gérer ce dossier-là, mais c'était quand même intéressant de voir Gorton laisser la porte ouverte aussi grande que ça là, dans sa conférence de presse.
c'est un des multiples dossiers qui ne semble pas être clos. Il y a Jason Robertson, justement, Connor Hellebuyck aussi. Donc, on va pouvoir suivre ça d'ici. Écoutez, le marché des joueurs autonomes...
Zach Werenski aussi, avec les Blue Jackets.
Zach Werenski aussi, oui, ajouté sur le... Écoutez, le marché des joueurs autonomes s'annonce plutôt ennuyant. Le marché des transactions, par contre, semble pas être terminé d'ici, justement, le 1er juillet. On va se reparler, justement, messieurs. Premier, deuxième, le 2, peut-être le 2, je sais pas. Le premier, le 2, on va se reparler
premier,
pour notre...
Peut-être
notre...
le plus tôt, le premier, en fin de journée, le premier.
On verra combien...
Le premier pour discuter de l'acquisition d'A.J. Greer par le Canadien, non?
Ouais. C'est ça. Le gros lot n'est pas chez les joueurs autonomes cette année, mais il y a plusieurs choses qui pourraient se passer d'ici là. Les gars, je vous laisse partir. Merci d'avoir été là. Retournez travailler immédiatement. Les gens, comme je disais, vont pouvoir lire vos textes sur lnh.com. Un gros merci d'avoir été là.
Toujours un plaisir.
Merci, Nick.
Allez, chers auditeurs, bien, merci beaucoup à vous aussi d'avoir été là pour cet épisode. Et on se reparle très bientôt.